c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30.
Bonjour à tous, je suis Julie Sigel, bienvenue dans Nos Adorés. Aujourd'hui, on reçoit un grand témoin, comme j'aime bien en recevoir. C'est Romain Ratwis. Bonjour Romain.
Bonjour Julie.
Donc Romain, t'es venu nous partager avec nous en fait ton parcours de vie jusqu'à maintenant, parce que t'es encore un jeune adulte, on a le même âge donc à peu près,
ouais.
Donc jeune adulte on peut dire.
Tout à fait.
Voilà, mais par contre t'as eu un parcours de vie un peu particulier que tu vas partager avec nous.
D'accord.
Donc on va parler d'un parcours psy.
Tout à fait,
ouais.
C'est ça.
Très bien, merci à toi. On va tout de suite commencer avec la première rubrique pour entrer dans le vif du sujet.
Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique... Et vous, quel ado étiez-vous ?
Alors Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton adolescence ? Quels sont tes souvenirs ? Qu'est-ce qu'on disait de toi ? Comment tu te décrirais ?
Ben, quelque part, j'ai toujours été un adolescent timide en fait. Mais quand j'étais à l'aise avec mes amis, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. Et, j'étais un enfant qui quelque part, a compris que la conscience était... utile pour comprendre les choses. Ça a été quelque part quelque chose que j'ai vécu bien tardivement, puisque quelque part je ne me parlais pas intérieurement. J'étais un enfant qui était dans la réponse et non pas dans le questionnement. J'ai toujours été comme ça, ce qui m'a apporté une espèce de sérénité au quotidien. Mais quelque part, quand j'étais confronté au fait de discuter avec des adultes ou amener quelque chose, un sujet de conversation, j'avais beaucoup de mal en fait. Parce que je ne savais pas comment développer la pensée. Et finalement, j'ai mis du temps à trouver mes marques. Par contre, je brillais dans le sens où, quelque part, je vais trouver un sens dans le fait de faire des jeux de mots. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça.
Ouais, on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est aller beaucoup plus loin que le simple fait de faire des jeux de mots.
C'est
la gloire, là.
C'est ça, oui.
Ouais.
Ah, oui, c'est vrai,
non, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, Romain a sorti un ouvrage dont on va parler en fin d'émission. Il va même, si on s'est bien mis d'accord, nous lire un petit extrait.
Oui, tout à
ouais.
fait, c'est prévu.
Super, ok. Donc en fait, on va parler de ton parcours dans la maladie qui a débuté à quel moment, dis-nous, Romain.
Ça a commencé à l'âge de 23 ans.
D'accord.
À ce moment-là, j'étais en colocation, j'étais avec des personnes que j'apprenais à connaître. Ça faisait peu de temps qu'on était ensemble. Et j'étais serveur dans un restaurant où on proposait du carpaccio à volonté. Donc, quelque part, ce qui s'est passé, c'est que mon hygiène de vie en a pris un coup. À la maison, dans la colocation, j'étais un peu stressé parce que je ne trouvais pas mes marques, ma place. Comme je vous ai dit, j'avais du mal à formuler des phrases, à être vivant, à s'exprimer, à être expansif.
Qui était déjà le cas à l'adolescence, tu viens de nous dire, en fait. Tu t'es déjà un peu senti différent, non ?
Jusqu'à 23 ans, effectivement, j'étais un garçon qui avait beaucoup de gêne. Ne sachant pas comment être pour apporter des choses.
Et tu te posais des questions par rapport à ça ? Tu le sentais vraiment ? Tu avais l'impression que les autres, ils fonctionnaient bien dans le monde et toi, moins bien ?
C'est ça, tout à fait. Je voyais bien qu'autour de moi, les gens étaient plus épanouis.
En apparence.
Voilà, c'est ça, bien sûr, évidemment.
Ouais.
C'est relatif tout ça.
Oui.
Mais je ressentais quand même cette différence puisque je restais très silencieux. Et il y avait les jeux de mots. Il y avait les jeux de mots qui me permettaient d'apporter des choses, en fait, qui sortaient de l'ordinaire.
Donc, on revient sur le carpaccio.
Voilà, le carpaccio. Voilà. Donc, en fait, je me suis donné à fond dans mon boulot.
De serveur.
L'hygiène de vie en a pris un coup. Je dormais de moins en moins.
Oui.
Je rentrais à l'appartement. C'était un peu la fête. J'étais avec des étudiants et un barman.
Donc, grosse vie nocturne.
Grosse vie nocturne. Je jouais aux échecs à pas d'heure. Enfin, c'était...
Et là, t'as perdu pied.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Ça, c'est outre le fait que tu avais un rythme circadien qui était mal respecté. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, j'ai ressenti des sensations que je n'avais jamais ressenties. Des grandes énergies m'envahirent par moments avec des pensées qui se rattachait aux énergies. Et c'est comme si j'étais autre, en fait. Et le fait d'être autre, j'ai ressenti un changement comme faisant partie d'une aventure, avec une notion de destin qui se met en place, en fait.
Et tu avais l'impression d'avoir quelque chose à accomplir ?
Oui, tout à fait.
Outre les Carpaccio.
C'est plutôt un rôle qui m'a envahi, en fait. J'ai fait un délire messianique, en fait. Ça arrive des fois que les...
Oui,
les...
comme si tu avais un destin pour changer une partie du monde.
C'est
pour,
ça, tout à fait. Voilà, j'avais tellement une énergie sereine et emplie d'amour et de bonté.
D'accord.
Parce que quelque part, c'est aussi une partie de la bipolarité. La personne se sent tellement envahie d'énergie, et que si la personne est bonne, ça remettra ça en avant, et elle voudra faire du bien.
Donc ça t'a pas inquiété, toi, t'as trouvé ça plutôt agréable, non ?
J'ai fait un délire de grandeur, en fait, quelque part, ce délire messianique. Mais mon altruisme montait en même temps. Je donnais de la bonne ambiance, je donnais du bien. Et j'étais un peu perturbé à ce moment-là, parce que quelque part, comme je dormais plus... Je commençais à m'exprimer davantage expansif, en fait.
Et les ados qui nous écoutent là, Romain, qu'est-ce qu'ils doivent se dire s'ils se reconnaissent un peu dans ce qu'ils disent ? Quelle a été ta démarche à toi, finalement ? Ça s'est soldé comment, cette histoire ? C'est toi qui as fait la démarche de te faire aider ?
Non. J'ai été hospitalisé parce que mes proches ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
D'accord.
Donc, quelque part, j'ai atterri à l'hôpital. À plusieurs reprises durant ma vie, hein, parce que j'ai fait plusieurs...
On en parlera, plusieurs épisodes.
Plusieurs épisodes.
Qu'est-ce que tu dirais aux ados, justement, qui, eux, se posent des questions, se disent « Merde, moi, je me reconnais dans ce qu'il est en train de me raconter là. »
Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que, quelque part, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on a un épisode comme ça que ça va être... on va avoir une vie complètement décousue. On peut faire une hospitalisation, mais il y a des traitements possibles, des traitements qui permettent de calmer la chose au moment où on arrive à l'hôpital déjà. Après, le traitement est revisité par moment, il peut être diminué jusqu'à ce que finalement on n'en ait plus, parce que ça peut être un épisode unique, en fait, singulier.
Oui, bien sûr.
Et c'est pas forcément qu'il y aura une redondance dans la pathologie, en fait.
D'accord. Et toi, ça, tu le savais pas quand ça a démarré, pour essayer de rester dans une certaine clarté narrative, on va essayer de revenir à cette prise de conscience qui a eu lieu par ton entourage. Si ça t'embête pas, on peut revenir là-dessus ?
Oui, bien sûr.
Ouais, super. Alors, donc, ton entourage a pris conscience que ça n'allait pas, que tu ne maîtrisais plus les choses, et t'as conseillé l'hospitalisation, t'as fait hospitaliser d'office, enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Alors, en fait, mes proches, mes amis, mes parents sont généralement, si je vous parle de manière générale sur toutes les fois où j'étais hospitalisé, je me coupe un peu d'eux. Comme je vis mon aventure, je me coupe de mes proches.
Ouais. Donc c'est cet éloignement aussi qui peut être le signal.
Cet éloignement, effectivement, c'est un signal. C'est un signe dont mes amis et mes parents doivent prendre en compte. Pour me dire qu'il y a un problème là, qu'il faut une hospitalisation. Malheureusement, donc j'ai 41 ans et jusque-là, j'ai toujours passé des moments assez longs pendant la maladie, parce que je me coupais effectivement de mon entourage et ils me retrouvaient pas, en fait. J'étais en balade.
Oui, c'est ça, c'est que tu disparaissais complètement.
C'est ça, je me mets en errance, vous voyez, comme il y a toujours cette aventure qui est là.
Et on t'a retrouvé dans des endroits complètement saugrenus.
C'est ça, tout à fait. Soit c'était sur Strasbourg, dans les bars de Strasbourg, où finalement j'étais en recherche d'ambiance, en recherche de nouveautés en permanence.
Mais t'es même allé plus loin.
Je suis allé plus loin, effectivement. Je suis parti à Lyon avec un voyage qui a atterri à Marseille. Mm-hmm. Ensuite, après Toulon, j'ai retrouvé un ami qui m'a aidé à revenir sur Strasbourg. Ouais. Et il en a fallu une hospitalisation par après. Je suis aussi allé en Hollande.
Oui.
Donc
c'est des parcours, enfin, t'es poussé par quoi ? Pourquoi tu pars loin comme ça ?
Je recherche de la nouveauté, en fait. Il n'y a pas de limite, en fait. J'ai peur de rien et me mettre en conditions désagréables ne me vient pas à l'esprit, parce que je pense toujours qu'il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Et j'ai appris à vivre aussi dans ce moment-là. J'ai fait la quête, en fait, c'est ça que je veux dire. J'étais un petit peu mendiant, je me suis débrouillé comme je pouvais. Ouais, ouais. c'était des conditions difficiles, mais quelque part, j'étais rempli d'énergie et de cette énergie positive qui me...
Et donc, on te coupe cette énergie en t'enfermant, en fin de compte.
C'est ça, tout à fait. Mais en arrivant à l'hôpital, je suis quelqu'un de très positif. Et j'ai tendance à, parce que je suis encore dans la maladie, j'ai tendance à aider les personnes qui sont hospitalisées. J'ai toujours eu cette propension à vouloir aider les personnes qui sont dans les milieux fermés.
Quels conseils, encore une fois, tu donnerais aux ados qui nous écoutent et qui se disent qu'eux aussi, ils ont des questionnements tels que les tiens, ou ils se sentent poussés par une énergie qu'ils estiment pas forcément classique? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire?
Voilà, je pense que la première fois, on connaît pas les signes avant-coureurs.
Ouais.
Ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement s'observer dans les facteurs. Facteurs qui poussent, donc le manque d'hygiène, le fait de ne plus dormir, tout ça. Il faut faire attention à ça, bien manger, et avoir une vie la plus saine possible, être bien entouré, faire de la philosophie éventuellement aussi pour aider justement à trouver les parages aux problèmes que peut rencontrer une personne qui a eu des problèmes psy, en fait.
D'accord. Et toi, tu fumais du cannabis à l'époque ?
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai commencé à 16 ans, c'est tôt. Et,
c'est classique, hein ?
La maladie, oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, parce qu'il y a peut-être des problèmes à la base.
Oui,
des problèmes justement de gènes et envie de dépasser ça, peut-être trouver... Une aisance qu'on n'a pas. Et donc, jusqu'à l'âge de 23 ans, entre 16 et 23 ans, ça fait 7 ans.
Oui.
Je ne suis pas tombé malade tout de suite, en fait. Mais quelque part, le cannabis m'a toujours, différemment que certaines personnes, parce que le cannabis soit endort, soit motive. Et moi, le cannabis a toujours été une source de motive.
Ah, d'accord.
L'effet a toujours été motivant pour moi.
D'accord.
Je m'ai faire du sport en ayant fumé, je m'ai joué aux échecs, joué au billard.
Ah oui, c'est pas ce qu'on entend habituellement. C'est un peu différent chez toi.
Tout à fait. Ça m'a toujours permis de comprendre des choses, de me dépasser, de mieux comprendre les choses. Tout à fait. J'étais un gros fumeur à l'époque. Maintenant, ça a bien changé.
Pourquoi ?
En fait, parce que le cannabis, c'est pas la peine d'en fumer beaucoup. C'est idiot, c'est inutile.
D'accord. On va peut-être pas conseiller.
Non.
Conseille rien du tout.
Non, bien sûr, je conseille pas. Voilà. Des personnes ont justement appris à se servir de leur conscience bien plus tôt et n'ont pas les mêmes schémas.
Oui. Mais tu penses que le cannabis, ça peut être un déclencheur ou un révélateur de ta maladie psy?
Sur le fait que effectivement, ça me pousse à comprendre les choses en les relativisant.
D'accord.
Ça a poussé des fois mon esprit à aller dans des chemins qui sont pas habituels.
Classiques.
Habituels.
Ouais. D'accord. Super. Merci. D'après toi, comment est-ce qu'on pourrait inclure de manière plus douce les personnes souffrant de psychose dans la société?
Je pense déjà que les personnes que l'on peut observer en se disant que ces personnes sont malades psychiquement, on en voit des fois dans la société, on les perçoit, ils ont l'air farfelus peut-être, ou parlant tout seul.
Soit ils sont amusants, soit ils font peur.
C'est ça.
En fait, je te dis dans la perception qu'on
oui,
en a.
Oui,
hein,
tout à fait, bien
société,
sûr, voilà, c'est ça. Soit on les trouve farfelus, soit on en a peur, soit finalement on passe à côté. Quelque part, je pense que... la personne qui délire, elle est dans son délire et ses proches ou des personnes accompagnant, des personnes qui ont le courage éventuellement de se poser sur la problématique de la personne qui a un problème, peuvent les aider. Mais je pense que il faut se dire que ces personnes ne sont pas violentes en règle générale, puisque en fait... il y a à peu près 3,5% des personnes qui sont bipolaires, il y a 10% qui sont dépressifs. Enfin, au total, il y a 25% de la population qui ont des problèmes à un moment donné ou récurrents, des problèmes psy.
C'est important de le souligner, effectivement.
Tout à fait. Et il y a 15% des crimes perpétués qui sont dus à des personnes qui ont eu un problème psy. Donc, quelque part, il n'y a aucune corrélation valable, en fait, à part que des
mais
fois...
Mais c'est l'ignorance qui génère la peur, finalement.
Bien sûr, tout à fait. Les gens ont plutôt à être rassurés, puisque, quelque part, la personne qui a un problème psy va plus se faire du mal à lui, éventuellement, qu'autre chose, en fait.
Bien sûr.
Parce qu'il est dans son univers, en fait, résumé.
Mais t'as eu le sentiment, toi, des fois, quand t'avais rejeté par rapport à ça ? Dans ton cercle amical, professionnellement, je sais pas.
Je pense que, pas forcément. Déjà, il y a la culpabilité. La culpabilité d'avoir été comme ça, ou comme ça, ou comme ça. On peut se dire, oh là là, mais je ne suis plus habilité à côtoyer des personnes qui n'ont pas eu de problème, parce que je fais partie d'un club. Le club des personnes qui ont eu des problèmes. Mais ce club, il ne faut pas le voir comme ça. Le club, il faut l'annihiler, en fait. Mmh. Et se dire qu'on peut être ami avec tout le monde, il n'y a aucun souci.
Beaucoup de gens sont sous psychotropes, etc. Et ils ne sont pas forcément reconnus comme ayant eu des problèmes, entre guillemets, mais les gèrent comme ça ou les endorment comme ça au quotidien. Hein.
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
Ou que ce soit l'alcool, ou que ce soit... Voilà, on essaye tous de faire taire nos démons d'une manière ou d'une autre. Donc bien je pense sûr. Que c'est plutôt ça aussi, le fait d'inclure... Ceux qui ont une histoire peut-être plus forte avec la psychiatrie, ça serait aussi peut-être ouvrir les yeux, non ?
Oui, tout à fait. Mmh. Je pense quand même que les personnes qui sont différentes apportent des choses différentes également.
Exactement, oui.
Dans tous les domaines, quelque part. Effectivement, penser autrement, c'est aussi découvrir les choses. Les scientifiques ont essayé de faire ça aussi pour comprendre les choses. Tout à fait. Penser autrement, c'est aussi ajouter des choses, c'est compléter des choses.
Ouais, exactement. Bah merci, c'est très intéressant ce genre de discours parce que on vous entend rarement en fait, vous les dingos. Non, je rigole. Non. Alors toi, t'as envisagé à un moment de devenir père aidant justement. Ça veut dire que toi, t'avais envie finalement d'accompagner les personnes qui ont des troubles psy, de les accompagner, peut-être aussi pour les rassurer, leur dire regardez, moi je suis là et ça se passe quoi finalement. Ma vie est pas si mal. Non. Ça ne s'est pas fait finalement. Pourquoi ? De devenir père aidant, ça ne s'est pas fait finalement.
En fait, malheureusement, c'est quelque chose qui m'aurait énormément plu.
Oui.
J'ai un traitement qui est un peu lourd en ce moment, ouais. Puisque j'ai fait...
Tu as eu un épisode récent.
J'ai eu un épisode l'année dernière, effectivement. Père aidant, c'est une formation à plein temps. Pour être père aidant, il faut faire une formation à plein temps.
Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, ces traitements, ça mange toute ton énergie. Tu as une fatigue chronique, c'est terrible, etc. C'est ça, je ressens
une sensation de fatigue. Mm-hmm. Les matins, c'est dur. Il y a des effets secondaires un petit peu.
Donc ça n'a pas pu se faire. Parce que justement, ton traitement était trop lourd. Et ça n'aurait pas pu avoir l'énergie qu'il faut pour transmettre ton énergie aux autres. Quoi.
C'est un peu ça, père aidant. Je suis, oui, tout à fait.
D'accord. Par contre, tu me disais que tu allais en hôpital de jour, les matins, je crois, trois fois par semaine, quelque chose comme ça ?
C'est ça,
Qu'est-ce que tu y fais, là-bas ?
Je fais... dernièrement, j'ai fait un groupe de lecture. J'ai fait de l'art plastique aussi, là-bas. Mm-hmm.
C'est que des adultes ou il y a des ados aussi ?
Il y a des ados aussi,
vieux ados.
Voilà, c'est ça, des vieux ados de 18 jusqu'à...
Oui, bah oui.
Voilà.
D'accord. Donc, art plastique, lecture, et il y a aussi des conversations avec le personnel soignant, ou comment ça se passe ?
Il y a des moments où on est dans le partage.
Tu aimes les groupes de parole, comme ça ?
Oui, voilà, j'aime beaucoup les groupes de parole.
Ah, c'est vrai, d'accord.
Il y a Aube, une association qui est comme un hôpital de jour, sauf qu'il n'y a pas le côté médicalisé.
C'est là que tu vas ?
J'y allais pendant un moment. Ouais. Maintenant, mes amis me comblent au quotidien. Ouais, j'essaie de m'occuper avec mes amis. Mais maintenant, j'ai l'hôpital de jour, effectivement, où je dois aller. Où j'ai demandé à y aller aussi pour
garder un rythme.
C'est ça. Ouais. J'essaie de me mettre un rythme qui me permettrait de retravailler. Donc, j'essaie de me lever tôt les matins. C'est pas évident parce que souvent je dois rattraper l'après-midi en faisant une sieste. J'ai trop d'heures de sommeil. Donc je vise plutôt un mi-temps pour retravailler. Ou 3 heures, 4 heures, ça irait par rapport à ma fatigue en fait.
Mais donc toi, Romain, tu es également écrivain et poète. Est-ce que tu peux nous dire en quoi jouer avec les mots t'apporte et te nourrit ? Tu nous as parlé de jeux de mots, ça date d'il y a un petit moment quand tu étais ado justement. Mais maintenant, c'est devenu un ouvrage. Tu as sorti un livre.
Oui, tout à fait, c'est ça. Alors ça a commencé en 2016, si je ne me trompe pas. Après une hospitalisation, j'ai créé un blog, puisque mes amis, depuis très longtemps, me disaient d'écrire, de mettre à plat mes idées. Et donc j'ai créé ce blog et je l'ai nourri au fur et à mesure du temps qui passe. Alors ça a été des textes avec des jeux de mots, avec des champs lexicaux qui se croisent, ça c'est ce que j'aime bien en fait.
Oui.
Et
c'est des textes avec des jeux de mots, certains sont même visuels. C'est-à-dire que il y a des, tu utilises des homophones, je
oui.
crois qu'on dit comme ça.
Oui, tout à fait.
Ouais. Tu utilises des homophones et en fait, c'est en regardant le texte qu'on arrive vraiment à comprendre...
Les choses apparaissent, effectivement.
Voilà. C'est pour ça, l'extrait que tu vas nous lire tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu as choisi, mais peut-être que tu as choisi quelque chose de plus radiophonique, qui est plus
c'est
sur
ça.
L'oreille que
tout
sur le visuel. D'accord.
Tout à fait.
Mm-hmm. Donc ça, ça t'a fait du bien. Tu as créé un blog, tu as commencé à être lu, etc. Et tu t'es dit, je vais envoyer mes... Comment tu appelles ça? Des textes?
Mon
des
ouvrage.
Poètes, mon ouvrage, ok. À des maisons d'édition.
Ouais, j'ai envoyé à 3 éditeurs.
Et tu as fait carton plein.
C'est ça.
C'est
j'ai envoyé à 3 éditeurs. Bon, ils ont accepté.
Ouais.
Et j'étais très content. Et la suite, bah, voilà, maintenant, ça suit son cours. Je me sens pas forcément très impliqué dans la façon de faire de la publicité. Mais bon, aujourd'hui, c'est un moyen peut-être de me faire connaître. Et voilà.
Oui, parce que je pense que ça fait partie intégrante de ton parcours. C'est quand même ce qui aussi te définit d'une certaine façon. C'est cette subtilité, cette clarté d'esprit. C'est très vif, en fait, ce que tu écris. Les textes, ils sont hyper incisifs.
C'est ça.
Ouais.
J'essaie toujours d'apporter une plus-value. on peut faire des jeux de mots qui n'ont pas de plus-value, qui sont simplement de du jonglage avec les mots,
oui.
mais sans forcément apporter quelque chose de nouveau. Mais j'essaie toujours, dans mes jeux de mots, d'apporter une autre dimension, en fait. Et que ça en jette, en fait.
Ouais,
que,
c'est ça.
Qu'il y ait des liens qui sont un peu presque magiques par moment, puisque quelque part, je cherchais la logique
ouais.
qui relie des thèmes en jouant sur la phonétique.
Oui, c'est ça. Puis du coup, il se mérite un peu ton ouvrage. C'est pas quelque chose... Enfin, je sais pas, tu me disais que t'as des amis qui l'avaient lu de A jusqu'à Z d'un coup, enfin
oui.
d'une traite.
Oui.
Moi, perso, je peux pas.
Oui.
Parce que voilà, je feuillette, j'en lis un, je me dis, ah, c'est marrant.
Ouais, c'est
voilà,
c'est
et puis j'y reviens après. Et,
ouais.
et on ne voit pas les mêmes choses d'une fois sur l'autre. Enfin, c'est
fait.
Vraiment intéressant.
Ouais.
Procurez-le vous, je vous le conseille vraiment. Et les ados aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers d'écriture. Quand on est ado, ça aide beaucoup. Moi, j'ai fait du slam beaucoup avec mes élèves quand je travaillais au Maroc. Et c'est vrai que c'était très fort. Les textes comme ça, ils disent beaucoup de choses, ils sortent des choses de leur trip et on est souvent impressionné. Donc l'ouvrage de Romain, ça s'appelle La Niaque des mots, c'est aux éditions Amalté et tu vas nous en lire un petit extrait si tu veux bien. Donc je ne sais pas ce que tu as choisi, là je suis en train de te donner l'ouvrage et tu es en train de le feuilleter pour trouver le texte que tu vas nous lire. Tu sais exactement lequel?
Oui,
comment tu as fait pour le choisir? Outre
le... Cherche
oui
un...
Tu en cherches un? D'accord.
C'est pas là.
Non? C'est pas un ouvrage de 300 pages non plus, donc rassurez-vous,
non,
il va trouver assez rapidement.
Tout à fait.
Voilà,
voilà.
Il y est, ça y est. Alors, on t'écoute.
Le titre s'appelle « La marche vers le pas, radis ». Les potes âgés aiment les temps plus vieux. Les potes âgés aiment les temps plus vieux.
Oui, merci.
Ils s'apprécient entre vieilles branches, même s'ils sont durs de la feuille. Empruntant les diverses saisons, ils cultivent encore leurs racines, en apprenant jusqu'au bout des ongles la vertu. Ils ne gobent plus les salades qu'on leur sert et savent ce qui ne les tue pas les rend plus forts. Ils ne s'occupent que de leurs oignons, sans en faire étalage, car ils préfèrent taire les soucis. Et pour les faire marcher, vous pouvez toujours courir même avec une carotte. Qu'on ne leur dise pas qu'ils poirotent, car ils sont bien dans leurs bottes.
Enfin, donc là, à l'opposé des ados, tu nous as parlé des personnes âgées.
Voilà, c'est
ça. À qui on ne peut plus raconter de salade.
Tout à fait.
Ouais, chouette. J'ai bien aimé le jeu de mots avec les tues.
Oui.
Tu peux nous la redire la phrase?
Ils savent que ce qui ne les tue pas les rend plus forts.
Ouais, chouette.
Et en fait,
donc t'as filé la métaphore, comme on dit.
Il y a des choses qui apparaissent plus en le lisant.
Évidemment,
mais,
ouais.
Voilà.
Mais tu l'as bien lu, on a bien compris en fait là où il fallait comprendre voilà, le parallèle avec les légumes et les potagers, okay. etc. C'était très clair.
Merci.
Merci. Donc on vous met le lien sous le podcast de l'émission, on va vous mettre le lien pour... c'est en vente sur toutes les plateformes de type qu'on cite pas. Et c'est en vente chez les libraires strasbourgeois aussi ou pas? Ou c'est juste en ligne pour l'instant?
Pas pour le moment, justement, je...
Bah, faut démarcher,
voilà, c'est
garçon.
Ça. Je sais que j'ai ça à faire et qu'il est, il est important que je le fasse.
Ça te fait peur un peu?
Non, pas du tout.
Bah, pourquoi tu le fais pas, si ça te fait pas peur?
Je procrastine un peu. D'ailleurs, j'ai une phrase que je peux
oui.
dire du bouquin.
Ouais, vas-y.
Quand on procrastine, la solution est de prendre son courage à deux mains.
Exactement, mais là, tu vas pas attendre demain.
C'est ça,
hein,
je suis enfermé dans mon bouquin, donc je le fais pas.
Ouais, c'est ça,
non,
exactement. Ben, merci en tout cas d'être venu nous parler de ton parcours, et moi je trouvais ça très riche. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi, et je conseille vraiment ton ouvrage.
Merci beaucoup.
Très chouette.
Merci
beaucoup,
Julie.
Romain. Bye bye.
Bye bye.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de... de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,